Polyplaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Pour faire suite et fin à l'émission précédente, c'est Raymond, thérapeute que je reçois de nouveau ce mois-ci sur les ondes de Radio Campus. Il réagit au document, ce que les professionnels en psychologie devraient savoir à propos du polyamour. Texte très intéressant de Weitzmann, visible sur le site polyamour.be.
On ne peut pas considérer cette idée de polyamour, hein, qui, d'après moi, tout est polyamoureux au début, mais c'est cette idée de polyamour, si on en fait un système, il va forcément générer sa propre philosophie, sa propre manière d'être, et ça va influencer les gens, ils ne seront plus les mêmes. Un polyamoureux ne sera pas comme un monogame rigide, enfin, ce ne sera pas du tout la même chose, et les enfants ne seront plus les mêmes non plus. Mais il y a des tentatives qui avaient été tentées, je sais pas, les genres kibbutz, etc., faisaient aussi, produisaient aussi d'autres enfants, une autre manière de les voir, une autre philosophie de la vie. Puis alors ça a été, je crois, abandonné. Enfin bon, le monde est fort et les modèles prégnants n'ont pas encore fini. Il ne faut pas, se faire d'illusions. Le polyamour, c'est une petite province qui essaie de prendre... C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, il y a un besoin qui est né, mais qui est né où ? Qui est né en Occident. Et voilà. Quand l'Occident dirige le monde, il va y avoir ça un peu partout. Mais dans beaucoup de civilisations, si on revient sur l'islam, il faut encore que la femme fasse tout le chemin pour pouvoir se permettre, elle, d'avoir un seul homme. Et de pouvoir le gérer, et puis d'en réclamer un deuxième. Ça c'est un gros travail. Pour l'instant, elle appartient à un bonhomme, avec deux ou trois autres copines, mais elle n'aime pas du tout ça. Donc il y a tout un chemin à faire qui est assez énorme.
Mais j'ai un ami, Christian, que tu as rencontré même ici, dans mon petit studio, qui disait ça par rapport à l'histoire chrétienne, que le Moyen-Âge avait sans doute été l'occasion de la crise d'adolescence du christianisme, et que l'islam n'a peut-être pas encore fait sa crise d'adolescence.
Oui, je crois, et que le passage transitoire, c'est ce qu'on a connu. Une femme pour un homme a été une très très grande victoire pour la femme. Et maintenant, elle passe au-delà. Et elle dit, et j'en veux un autre, je veux d'autres expériences. Et en échange, je lui permets à lui aussi de faire d'autres expériences. Il faut comprendre ça comme ça, le polyamour. À ce moment-là, on se dit, ben oui, ça fait partie d'un long mouvement, d'une longue libération qui a commencé où ? Ben, qui était quasi, quand on regarde bien la mythologie, par exemple, quand on regarde bien, c'était prévu par les Grecs. Dans l'histoire grecque, à partir d'Ouranos, qui est on dit à Ouranos, il y a un oracle qui lui dit qu'il aura un fils et que ce fils va le castrer, et puis ça se passe, enfin, ça continue comme ça jusque Zeus. Alors on dit, ben Zeus, c'est le dernier. Oui. Mais Zeus, il rencontre Métis. Et Métis est une très belle femme qui vit près de la mer en Grèce, dans une petite maison, donc bleu et blanc, comme on les voit en Grèce. Et puis elle est jolie, et Zeus tombe amoureux d'elle. Et l'oracle intervient de nouveau et dit, l'enfant qui naîtra de cette union va te détrôner. Zeus a une peur bête, et il fait l'amour avec Métis, et puis il l'avale. Il l'avale et il dit, ainsi, l'enfant ne me détrônera pas, je vais pouvoir le contrôler. Il l'avale, mais à l'intérieur de lui, Métis est là, cet enfant. Et cet enfant commence à pousser en Zeus et lui sort par le crâne. Et cet enfant naît. Il demande à son fils, Héphaïstos, de lui ouvrir le crâne, mais l'enfant naît. Mais l'enfant est une fille. Et Zeus, il est tranquille. Il dit, ce n'est qu'une fille. Ce n'est pas la Athéna, qui est une stratège, qui est une fille intelligente, qui est belle, qui est... Bon, c'est une stratège du bois, ce n'est qu'une fille. Ce n'est qu'une fille. L'oracle avait dit, l'enfant que tu auras de Métis va te détrôner. C'est une femme. Pallas Athéna va détrôner Zeus. On y est. C'est la femme qui gouverne le monde. Pallas Athéna a gagné. Zeus, il est en deuxième plan. Il est à l'arrière-plan. C'est fini. Donc, déjà, c'était prévu, il y a 2500 ans, cette affaire. Ben, ça y est, on y est.
Je reste quoi, Raymond? Oui, non, mais c'est une belle façon que tu as de relier, puisque je savais aussi que tu avais cette approche anthropologique et au-delà de ça, tous tes intérêts pour la théologie ou les philosophies, des choses comme ça. Et je pense qu'on a besoin de sens. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le petit troupeau, le petit polytroupeau là, qui se met en place, il est... Enfin bon, là je parle peut-être plus pour moi, mais on est en demande. Et quand je vois les gens qui m'écrivent, puisque en m'occupant du site polyamour.be, ben, des gens m'écrivent, encore une personne de 22 ans qui vit depuis 4 ans dans le polyamour avec deux hommes, et qui a fait le tour de tout le site de certains bouquins, qui se dit, tiens, je suis un peu compris, je me sens avec vous. Il y a tout de suite cette première envie de se sentir dans le groupe et d'être assuré. Et donc là, quand tu nous parles ici, en plus, il y a 2500 ans, quelqu'un l'a déjà dit, c'est encore plus rassurant pour nous.
Tout à fait. Donc le polyamour est quelque chose de naturel. La relation privilégiée est aussi quelque chose de naturel. Hein, donc il faut dire que par rapport à soi-même, par exemple, quand on dit « je suis moi », ben, on est déjà à deux. Il y a « je » qui est « moi ». Hein. « Je ne suis pas moi », ben, c'est le cas de la plupart des gens. « Je ne me retrouve pas », »,« je ne me connais pas », »,« je ne me ceci ». Donc on est déjà « je » et « moi » dans une relation privilégiée. Donc il y a une relation privilégiée, et puis au-delà de ça, je est multiple, je peux s'associer à un tas d'autres, être d'accord avec un tas d'autres, mais il y a quand même le fait que moi, c'est le plus important des autres. Bon. Quand on regarde par exemple Homère qui nous fait son Odyssée, on voit que Ulysse se balade, donc Ulysse part de chez lui, part à la guerre, et par après il ne peut plus revenir chez lui, donc il y a... comment elle s'appelle nouveau, Pénélope l'attend, et lui, ben, il est repoussé par la mer, il est repoussé par les vents, il fait le tour de la mer Égée, de la mer Méditerranée, enfin, il part pendant 24 ans, et le grand but, c'est de rentrer chez lui. Mais pendant ce temps-là, chez lui, sa femme Pénélope, elle est en train de tisser son histoire, certes, mais elle est aussi entourée d'un tas de prétendants, un tas d'hommes, des polyamoureux, mettons, hein, elle vit une vie polyamoureuse, mais elle attend quand même l'élu. Donc, si on prend l'histoire de Pénélope, qu'on laisse un peu Ulysse de côté, parce que c'est l'homme de l'affaire, mais on est dans une époque plus féminine, quand on prend Pénélope, on se dit, elle est polyamoureuse en attente de cet amour unique quand même. Et qu'est-ce qui fait qu'elle arrive ? Ben, elle tue tous les autres, hein, et prend sa place. Donc, je dirais qu'il y a un mouvement de respiration, il y a un mouvement de... À un moment donné, il y a la multitude. Hein, et puis, on revient vers... le partenaire unique, et puis la multitude, et puis le partenaire unique. Donc il y a comme un inspire, un expire. Et je crois qu'il faut voir ça dans une espèce de dynamique. Si on aura compris la dynamique du polyamour, et puis du monoamour, et puis du polyamour, et puis du monoamour, une fois qu'on aura saisi la dynamique, je crois qu'on comprendra beaucoup mieux cette histoire-là. Mais il est clair pour moi que le polyamour fait partie de la démarche, d'être humain, d'être ouvert à l'autre, d'accueillir le monde, d'accueillir l'amour qui se trouve dans le monde et dont j'ai besoin. Et puis, parmi ça, parmi ceux-là, il y a bien quelqu'un qui va m'inspirer davantage et qui sera ma source à un moment donné. Et puis, ça va de nouveau repartir dans le multiple et puis de nouveau dans le un. Je crois que si on regarde ça comme une dynamique plutôt que comme une structure, on a plus de chances de rentrer dans ce troisième millénaire où on est déjà engagé depuis une dizaine d'années. Je crois que ce sera le millénaire des processus plutôt que des structures. Hein, voir comment coule la rivière plutôt que de la couper en tranches, hein, et de la photographier, quoi. Voir le film de cette histoire. Et je crois que le polyamour fait partie d'un processus et qu'on le découvre maintenant parce que ça peut nous aider en chemin.
Moi, je vois, Raymond, que tu es venu avec un grand grimoire, même plusieurs, les solariens, ça me fait un peu peur. Tu as sonné à ma porte et j'ai vu, tu es arrivé avec un grand grimoire de l'amour. Je me dis, tiens, est-ce que tu peux nous parler juste, voilà, peut-être de quelques documents avec lesquels tu es venu ? Ou alors c'est parce que tu vas à une autre réunion après qui parle d'autre chose ?
Non, pas forcément. Donc, je suis tombé sur un livre de science-fiction que j'avais déjà lu à l'époque et puis que j'ai relu, qui est un vieux truc de Norman Spinrad, donc un auteur américain, et qui s'appelle « Les solariens ». Et dans ce livre « Les solariens », il met en place, donc ce livre date de 1966, donc vous voyez, il y a bien longtemps. Donc il décrit l'humanité comme ayant été isolée des autres participants au cosmos, et à un moment donné, les êtres humains re-rentrent dans cette histoire du cosmos pour le sauver. Donc on va sauver le cosmos d'un monde de machines, d'un monde d'envahisseurs qui ressemble à des machines, enfin un truc comme ça. Et ce qui m'a frappé dans ce livre-là, c'est que ces êtres humains, ces nouveaux terriens, ne vivent plus en couple, mais vivent dans des groupes d'affinités. C'est-à-dire que un romantique a rencontré un réaliste, qui a rencontré un technicien, qui a rencontré un poète, et puis ils forment des petits groupes, mais qui se forment à l'enfance, et chacun vit dans un petit groupe où tous les besoins de ce petit groupe, de la communauté, sont satisfaits. Alors Spinrad, il met ça en musique et je trouve qu'il le fait très bien. Donc c'est un document qui, pour les polyamoureux, peut être intéressant. Donc un document qui vient également de la science-fiction, hein, comme Heinlein, hein, qui avait été une source d'inspiration pour les polyamoureux. Je dirais que Spinrad en est une autre, hein, qui n'est pas connue, qui n'est pas citée, mais donc je me permets de le citer.
Et Heinlein, donc, avait écrit « Étranger en terre étrangère », c'est ça ?
Exactement, oui. Hein, donc, les amants étrangers. Enfin, qu'il y a quelques trucs. Donc, Spinrad, les Solariens, ça s'appelle en américain. Je ne sais pas comment ça s'appelle. The Solarians ou un truc comme ça. Hein, donc, sinon, je parle de moi, de mon coming out. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Le coming out du praticien de la relation d'aide ». Curieusement, dans ce livre, je parle aussi de mes relations. Je parle aussi des 5 femmes qui ont fait ma vie et comment elles m'ont fait, comment elles ont eu une influence sur moi. Hein, et je me dis, tiens, mais c'est vrai que je les ai connues dans le successif. Je n'ai pas eu 2 femmes à la fois. Je n'ai pas donc tenté. Pour moi, je n'ai pas été aussi loin que le font les polyamoureux. Je n'ai pas eu des relations successives où je dois pénétrer dans 2 mondes à la fois. Hein, qui sont très différents. J'ai chaque fois pénétré un monde et puis me suis laissé pénétrer. Et puis voilà, quand une histoire était terminée, j'ai commencé une autre. Mais quand j'écris ce livre, quand je fais ce coming out, c'est je réunis tout ça et je vois que ma vie a été enrichie par toutes ces relations successives et je recommande ça à tous ceux que je connais. Hein, ne vous arrêtez pas à une relation, ne restez pas sur une déception. Là, la vie est ouverte et voilà, une relation, c'est... Je parle là de processus. Une relation commence, à un moment donné, elle est très belle, et à un moment donné, elle décline, elle s'en va. Si elle peut recommencer la même, pourquoi pas, hein, souvent, ça se termine, et puis une autre relation commence ailleurs, et avoir et donc, ce courage.
Le livre que tu as écrit, c'est quelle édition ? Enfin, tu peux juste un peu citer
pour... Oui, c'est écrit... Donc l'édition, c'est le manuscrit. Donc on peut également le lire en ligne. Je crois que ça coûte 2-3 euros et on peut également l'acheter. Alors, ils le produisent. Oui. Et voilà. Donc, ils le produisent au fur et à mesure des besoins.
Et donc, là, on comprend dans ce que tu as un peu expliqué sur le livre, que les 5 femmes de ta vie t'ont enrichi, t'ont amené des réflexions particulières, quoi.
Tout à fait. Et il n'y a pas 2 femmes pareilles. Et je crois que ça n'existe pas. Qu'il n'y a pas 2 femmes pareilles, qu'il n'y a pas 2 relations pareilles, parce que ce n'est pas seulement la femme qui est là en face, c'est la relation, c'est le monde qu'on va créer ensemble. Alors il y a une tentative, il y a la réalisation d'un monde avec l'autre. Je crois que le modèle s'apprend à la naissance avec maman. Hein, on vit dans un monde, dans le monde de maman qu'on quitte, mais ce qu'on en garde, c'est ce monde. C'est, tiens, il y a un monde à faire avec l'autre. Et dès qu'on rencontre l'autre, un homme rencontre une femme, dès que ces deux-là, ces deux éléments sont présents, un monde se crée. Donc, voilà, c'est chaque fois un monde différent. Et en entendant Saint-Père, elle disait ça aussi à un certain moment. Elle n'a pas connu 2 hommes pareils. Elle n'a jamais trompé un homme pour un autre, puisque les histoires sont tellement différentes que c'est difficile de tromper l'un pour l'autre. Et je crois qu'il y a de ça. Alors pour le polyamour, ce sera toute la question, et c'est de nouveau une question philosophique, profonde, toute la question de se dire que les relations, même si elles sont simultanées, ne sont pas pareilles. Elles ouvrent des mondes différents. Alors, est-ce qu'il y a communication entre ces mondes, entre eux ? Oui, au point de former un seul monde bizarre où il y a 3-4 personnes. Peut-être oui, mais ça reste à voir. À ce moment-là, on est dans l'idée de famille. Donc on quitte la relation primaire à la mère et on est déjà dans une idée de famille. Tiens, il y a là une petite sœur, il y a là un petit frère, il y a là un père, hein, avec les drames de la famille. Donc on est moins dans une relation fusionnelle première qu'on est déjà dans une famille. Bon, c'est une autre dynamique, ça.
hatred. Hands covered with a violence. Not out of rabbi, nor the wedding can come hell's burning fire. Have you seen those people suffering, suffering, so suffering, so suffering all the time?
Tantôt des besoins satisfaits, hein. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai un peu retenu, et je ne peux pas m'empêcher de faire un peu ce lien et de me dire, mais dans le fond, ça a été dit par d'autres gens aussi, mais une personne ou plusieurs personnes satisfaites vont d'emblée moins compenser par de la consommation, et je pense que la société marchande aujourd'hui a quand même beaucoup d'avantages à frustrer les gens, sexuellement notamment, pour pouvoir leur vendre un tas de choses inutiles. Est-ce que tu partages un peu ce point de vue?
Oui, tout à fait. Et on emploie le couple pour ça. Mais je ne vois pas comment on pourrait éviter qu'on emploie les couples polyamoureux pour ça aussi. Ouais. C'est-à-dire, je les crois suffisamment malins, et je crois que nous, on fait partie d'eux. Enfin, c'est les gens qui vont faire partie des couples polyamoureux qui seront dans la publicité. Ils doivent quand même gagner leur vie. Bon. Ouais. Hein, donc, ils sauront aussi quels sont les besoins d'une relation polyamoureuse. Et ça m'étonnerait qu'ils ne nous vendent pas une voiture à cette place, hein, parce qu'il faut absolument acheter celle-là pour les couples polyamoureux qui ont 3 enfants chacun. Enfin bon, hein, donc, ou les petits autobus, hein, ça se vendra bien. Quand la famille polyamoureuse va aller faire un tour à la mer, il faudrait au moins 15 places. Hein, donc, voilà. Donc, je crois que ça va être récupéré de toute manière. Hein, que c'est... Parce que quand on parle, le monde qui nous exploite, mais c'est qui ça, le monde qui nous exploite? Sinon, le copain qui habite dans la rue à côté et le banquier, mais qui habite la troisième maison plus loin. Enfin, c'est les gens avec qui on est au bistrot et avec qui qu'on voit dans la rue, qu'on dit bonjour monsieur. Hein, ce sont ceux-là. C'est nous. Enfin, on fait partie du système.
Je pense au lit de 4 mètres de large avec 4 commodes. Quoi.
Oui, tout à fait.
Chez Ikea.
Chez Ikea, tout à fait. Pour la famille élargie, ben Ikea élargie. Quoi. Enfin, oui, on va trouver ça.
C'est terrible, ça, hein, comme réponse que tu me dis là. Ça casse encore quelque chose comme ça. De...
Oui, mais je crois que le psychothérapeute, enfin, ce que je fais, c'est en revenir à ce principe de réalité. C'est vrai que ça fait partie de mon métier de sortir de l'illusion. Pas vraiment dégoûter les gens, mais sortir de l'illusion, parce que c'est avec ça qu'on se fait souffrir.
Mais je crois qu'en même temps, c'est intéressant, parce que peut-être qu'on est, comme tu disais, dans l'âge d'or du polyamour ici en Occident, on a un peu tendance à mettre une couche comme ça de poésie, d'idéal de vie, et qu'en fin de compte, quand il faudra tous partager les frais de la facture, de gaz, et, enfin, on sera de nouveau dans une vraie réalité. Là.
Tout à fait, oui. Oui, donc le polyamoureux va devoir structurer son environnement aussi. Et quand il y a, je sais pas moi, un couple avec deux gosses, ben, il y a des problèmes. S'il y a un couple polyamoureux avec 14 enfants, ben, ça fait beaucoup de problèmes quand même. Et même si on est plusieurs pour le résoudre, oui, mais il y en a plus aussi de problèmes. Hein. Donc on ne diminue pas le nombre de problèmes. Au contraire, ils sont originaux. Il faudra trouver des solutions originales. Il faudra être malin. Hein, pour, mais ça fait partie de l'humanité. Moi, je crois que l'espoir, c'est qu'on peut expirer ce mouvement mono-amoureux, coincé. C'est comme si on avait inspiré pendant si longtemps qu'on est, on est coincé, on ne peut pas expirer, on ne peut pas se laisser aller. Que maintenant, il y a enfin ce mouvement où on peut expirer à son aise. Et puis, bon, ben, c'est si on a des choix à faire, si on veut telle compagne particulière pour un moment, mais pourquoi pas, hein. Et si ce moment dure toute une vie, mais pourquoi pas, hein. Donc, je dirais que la monogamie sera une exception au polyamour, et ça me paraît plus simple à gérer que le contraire.
Et puis, on voit aussi, parce qu'on a parlé beaucoup des polyamours ici depuis quelques questions, mais il y a aussi, donc à Paris, il y a 60% des gens vivent seuls. Donc, je pense que les mégapoles s'organisent vers l'envie pour beaucoup de gens d'être un peu en solitude et de choisir peut-être des relations polyamoureuses, mais où on ne sera pas dans les polyfamilles, où chacun va se rendre visite. Et on sait très bien que dans le mouvement polyamoureux, il y a aussi les relations en V, où les partenaires ne se rencontrent pas, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un repli identitaire qui se manifeste de plus en plus, qui fait partie de cette mondialisation. Plus il y a mondialisation, plus il y a la polarité de la mondialisation. Et la polarité de la mondialisation, c'est le repli identitaire. Hein, donc Touraine, par exemple, un sociologue a signalé ça, a appuyé sur ce fait. Donc on va vers davantage de repli identitaire. Chacun est soi-même et essaie d'être soi-même. C'est dans ce cadre-là qu'il faut voir aussi le polyamour, hein, plusieurs relations, mais surtout rester moi-même, ne pas fusionner avec quelqu'un d'autre et m'y perdre. Le repli identitaire favorise le polyamour, en tout cas. Mmh. Hein? Alors il y a qu'on crée chacun des bulles. On vit dans des bulles, et plus la mondialisation va, plus on est citoyen du monde. Mais alors, au sens réel du mot, tu peux prendre un avion pour aller à Taïwan, et puis de là, tu peux en prendre un, tu peux aller... Bon, plus on ouvre le monde, plus chacun se replie sur lui-même et sur sa bulle. Alors, la bulle n'est pas formée que de moi, mais formée de moi et de quelques personnes qui en font partie. Et ces bulles, on peut les étendre. La plus grande bulle, c'est le village, peut-être la province, mais plus le monde s'ouvre, plus les gens se replient. Oui. Dans des
il y a une revendication identitaire locale, ça, c'est assez, on le voit dans l'Europe, ça.
Tout à fait, tout à fait. Hein, donc plus la mondialisation va, plus il y a le repli qui va. Et comme la mondialisation va continuer son trip, comme on va ouvrir des frontières, on va dire les marchés sont ouverts, etc., plus les gens vont s'opposer à ça pour essayer de trouver un équilibre, dire ben non, hein, ce qui est fait chez nous, ben, c'est à nous. Et puis voilà. Donc je crois qu'on va vers une espèce de... Il y a Peter Sloterdijk, qui est un nouveau philosophe allemand, pour tenir ce nom, parce qu'il va être important. Donc, nouveau philosophe allemand, qui écrit déjà pour la prochaine génération. Il emploie des modèles comme des modèles de bulles qui sont plus ou moins comme l'écume. L'écume formée de bulles qui sont plus ou moins ensemble. Il dit, voilà des modèles qu'on va pouvoir trouver à l'époque, plutôt que des ensembles structurés, des pays, des États. Lui, il parle plutôt d'ensemble de bulles mouvants, mais ayant des communications entre eux, mais très proches. Des trucs très proches qui vont résister à peu près à tout. Et dit, et ça, si on parvient à faire ce genre de truc-là, ça, c'est incassable. Mm-hmm. Hein, parce que chaque bulle est structurée en elle et fait partie d'autres bulles. Et voilà quoi. Enfin, donc c'est des petites entités qui sont autocontrôlées et qui résistent à peu près tout. Et qui peuvent se balader de par le monde.
Là, tu parles un peu des micro-résistances, par exemple.
Des micro-résistances, des espèces de petites autarcies, hein, composées. Hein, donc, il est en train de mettre au point, Sloterdijk, philosophe, donc, un modèle de bulle. Il a écrit 3 bouquins qui s'appellent « Les sphères ». Bon, maintenant, il faut pouvoir les lire. Hein. C'est un philosophe et c'est pas vraiment de la littérature qui est bonne pour tout le monde. Mais l'idée est bonne, l'idée de l'écume, l'idée de cette accumulation, on a regardé trop grand. Mmh. Hein, il dit, mais même l'Europe regarde très grand, mais il faut bien voir l'Europe comme une construction très curieuse, translucide comme ça, mais où le polonais reste quand même fort polonais, le français fort français, l'italien fort italien, et même ces nations ne sont plus vraies. Il y a l'italien du nord et celui du sud qui sont plus les mêmes, et il y a le catalan qui n'est pas du tout comme l'andalou, et il y a le français de Brest et celui de l'Alsace, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin bon, donc les bulles se forment pour éventuellement former cette superstructure qu'on appellera l'Europe. Bon, mais alors au niveau de la famille, bon, on voit ça aussi. Hein. Chacun est une bulle, le repli identitaire ayant fonctionné, chacun est soi-même. Et on encourage ça. Va en thérapie ou va en formation et tu deviendras toi-même. Mais avant, on ne se posait pas la question. Qui est toi-même ? Mais toi, tu es le fils de, tu es le père de, tu es l'employé de. Bon, actuellement, c'est non. Tout ça, je laisse de côté. Je suis moi. Je suis moi. Moi qui est à créer, moi qui est à découvrir, hein, c'est quelque chose de très précieux. Alors, moi qui suis moi, je vais me réunir avec un autre qui est lui-même. Et ça va former une entité très, très dense, très dure, qui va pouvoir résister au monde entier. Et puis voilà, donc on est parti dans
un combat. Mais ça me fait penser à quelque chose, quand tu parles de tout ça, justement, dans les identités des frontières, hein, de l'Europe et autres. J'avais lu quelque part aussi que le fait d'habiter dans une vallée ou dans une montagne ou dans le nord de l'Europe ou dans le sud influence aussi les modèles, les façons de vivre ensemble. Et dans cet ordre-là, l'auteur parlait de ces peuples du nord qui ont envahi, donc hein, Norvège, Suède, ces chasseurs de rennes, devaient obéir à un seul chef. Et quand ils criaient feu, on sautait tous sur le renne. Donc, parce qu'on avait faim, qu'il y a de la neige et qu'il faut manger. Et donc, pour ces gens, pour le chef de village qui commandait l'ordre d'attaquer pour manger, bah, attaquer pour manger un cerf ou tuer un autre homme, dans le fond, c'était un peu semblable. C'est des gens souvent appelés à se déplacer pour suivre les troupeaux, à s'organiser dans des terrains à conquérir. Et que les gens du Sud étaient plus dans une relation de plus sédentariste, avec l'idée de mettre des clôtures, des vaches, semer le blé, parce que c'est abondant, il y a du soleil, et que ces gens-là étaient de plus petite taille, généralement. Et donc, il était dans des rapports peut-être plus féminins parfois, à l'idée d'échanger, de faire du commerce, de s'entraider plus. Et donc, il y a d'emblée eu des modèles comme ça, de relations, on va dire, plus organisées, pyramidales, ou plus organisées, horizontales. Oui. Et là, on peut parfois imaginer que les vraies frontières, dans des peuples qui peuvent se comprendre, j'imagine quelqu'un qui vit en Suisse va peut-être mieux comprendre quelqu'un qui vit en Cordillère des Andes, parce qu'il vit assez haut et que ça implique une façon de vivre et qu'il n'y a pas assez de... Les terres agricoles sont autres et qu'il faut... Enfin, voilà.
Oui, donc je crois, mais malheureusement, je te contredis un peu, je crois que tous ces modèles, il faut les mettre de côté. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus adéquats. Hein, donc on revient vers des modèles... Effectivement, le territoire, la terre fait des gens différents. Hein, l'endroit où on est au monde, l'endroit dont on est issu va nous suivre tout le temps. Enfin, on est d'où on est, avec NAIT.
Quelqu'un qui vit au bord de la mer, ici ou là-bas, va mieux se comprendre.
Tout à fait. Hein, donc, c'est cette espèce d'idée qu'il y a eu à un moment donné que tout le monde peut se balader partout dans le monde et devenir, si je veux, je peux devenir espagnol ou italien, ou bien pourquoi pas turc. Hein, suffit que j'y aille 4-5 ans. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai. On va là-bas où ils viennent ici, et trois générations après, les enfants sont encore à moitié turcs, mais ils ne savent pas où se situer. Parce que c'est compliqué, quoi. Enfin, il faut attendre 50 ans avant qu'on s'habitue à un lieu et qu'on soit vraiment de ce lieu, et encore.
Ben oui.
Hein, bon. Donc, ce qu'on avait pensé, hein, on peut s'acclimater partout et tout le monde... Mais ce n'est pas vrai. Mm-hmm. C'est pas vrai, on a vu ça aux États-Unis aussi. Autre phénomène curieux aux États-Unis, j'y ai été deux, trois fois... Hein, ces gens vivent parfois dans des petits bleds pas possibles, réunis dans des maisons en bois qui sont plus ou moins en cercle comme ça. Il n'y a pas que la rue, mais comme les Indiens. C'est-à-dire comme les Indiens qui les ont précédés sur ce territoire, il y a des gens qui vivent comme ça. Maintenant, ceux qui ont été, disons, chassés par le système économique qui ne leur ont pas été favorable, sont retournés sur le terrain, sont retournés dans ces grandes plaines, etc. On peut s'attendre à ce qu'ils vont s'organiser comme l'ont fait longtemps avant eux, les Indiens des plaines ou les Indiens des montagnes. Mmh. Enfin bon, hein, donc on est vraiment en train de se réorganiser, d'être attaché à sa terre, et visiter le monde va être une histoire tout à fait différente, va être une pénétration très polie d'ailleurs dans la bulle des autres, avec demande d'autorisation. Est-ce que je peux, pendant que je suis en visite chez vous, voir comment vous vivez, et puis on va voir les communautés se dessiner comme des trucs tout à fait autonomes, hein, en interrelation les unes avec les autres, certes, mais tout à fait autonomes. Hein, donc, je crois qu'on va vers un monde qui va nous surprendre. Si on pourrait faire un bond de 40-50 ans, on ne va pas trouver ce qu'on croit y retrouver. Je crois que des gens comme Sloterdijk, etc., ont cette vue perspective en disant « mais ça va tourner autrement ». La réalité ne permet pas le rêve capitaliste. Donc, ce n'est pas, c'est pas que le capitalisme, etc., etc. Enfin, bon, il a des bons côtés, le capitalisme, mais il s'est heurté à la réalité. Actuellement, bah, avec ce qui s'est passé, la crise financière essentiellement, on voit que le capitalisme, c'est un rêve. Ça ne marche pas. Il y a des spéculateurs, mais spéculateurs, ça veut tout dire, des gens qui spéculent, hein, qui racontent des histoires. On raconte tous un peu des histoires, mais enfin des gens qui racontent des histoires, qui se racontent des histoires de sous, mais que ce soit des sous, du pouvoir, enfin ils se racontent des histoires. À un moment donné, ben, ils se cognent contre le mur. Le mur de quoi? Mais le mur de la réalité, c'est que ça ne marche pas, ces histoires. Hein, que un type paye, je ne sais pas moi, 100 milliards, puis les autres n'aient rien. Ben, ils le regardent tout bête en disant, mais ça ne marche pas ton truc, tu peux garder tes 100 milliards.
Comme dit Pierre Rabhi, je ne sais pas si tu connais, un lingot d'or, ça ne se mange pas, quoi.
Eh ben non,
les vraies richesses, elles sont dans les campagnes. Le jour où on ne sera plus déplacé en, en autobus...
Si ça mène avec son milliard, on ne veut pas lui donner une patate, il va quand même être embêté, quoi. Enfin, je veux dire, donc, ça se heurte au mur de la réalité. Donc, on est confronté à un monde qui nous impose, d'une manière très subtile, sa réalité. Hein. Et on peut rêver autant qu'on veut, à un moment donné... Il faut revenir. Hein. Donc, c'est le crapaud qui avait trop respiré, qui était devenu aussi gros que la vache, ben, il doit expirer à un moment donné. Et je crois qu'on est en train d'expirer. Et hein, pour revenir à notre mouton, le polyamour, ben, c'est une manière d'expirer le couple exclusif. Hein, que d'être dans ce polyamour. Hein, c'est une manière de respirer la relation, de respirer l'amour, d'être de nouveau dans cette dynamique. Hein, qui va nous ouvrir les portes vers ce nouvel univers où il faudra réapprendre à aimer. Réapprendre à aimer. Pas son pays, pas son compagnon unique. Aimer son village, aimer son coin, aimer être polyamoureux.
Ben merci Raymond. Et une toute dernière petite question, parce que je me dis que c'est peut-être pas mal aussi. On a parlé de la femme. On en a parlé un peu, on pourra encore sûrement faire une ou deux émissions aussi sur le fait que, pour moi, c'est un des moteurs du mouvement polyamoureux maintenant. Mais est-ce que tu auras un petit mot à dire par rapport aux hommes qui nous écouteraient maintenant?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sourde lutte qui est en train de se passer. Si la femme prend sa place, elle oblige l'homme à prendre la sienne aussi. Et il ne sait plus quelle est sa place. C'est-à-dire qu'il était prévu que c'était lui, le chef de famille, lui ceci, lui cela, c'est-à-dire un certain nombre de rôles lui étaient dévolus. Et même si ça n'avait pas été expliqué, pour lui, c'était suffisamment clair.
Par le lait maternel, il y a eu...
Voilà, tout à fait. Par le lait maternel, il avait toutes ces informations. Et puis, il se retrouve dans un monde où tout ça ne va pas de soi, puisque la femme prend sa place, la place qui lui revient. Elle le fait lentement, mais elle va le faire encore pendant, je ne sais pas moi, un petit millier d'années, si ça se trouve. Donc, l'homme doit se resituer par rapport à ça. Alors, ce que je lui recommanderais, c'est de ne pas trop stresser, hein, de rester cool, de regarder quelle est la place qui lui reste, mais de prendre sa place d'une autre manière. Hein, de lui laisser... qu'est-ce qui excite l'homme quand la femme va travailler? Laissez-la travailler. Hein, nous, ben, on doit peut-être apprendre à se relaxer, à rien foutre, à prendre notre pension, à être tranquille, à enfiler nos charentaises ou à faire des choses intéressantes, prendre la moto, aller faire un tour. Enfin, il y a plein de bonnes choses à faire pendant que toutes ces femmes veulent s'affirmer et travailler. Il y a peut-être moyen de prendre la vie du bon côté, hein, de vraiment se réorienter, mais de faire ça tranquillement, sans lui en vouloir, sans... C'est des mouvements qui sont menés par le monde et il faut respecter le monde. C'est des mouvements qui viennent des grandes profondeurs. Il ne faut pas croire que c'est uniquement un petit truc qui vient comme ça se présenter. C'est un très, très, très profond mouvement qui nous est ordonné par le monde qui est quand même, si on veut appeler Dieu autrement, Dieu, c'est le monde dont on fait partie. On est des morceaux de monde, des morceaux de Dieu, si on veut le dire autrement. Et voilà, on ne peut pas s'opposer à ça. Quelque chose nous dit, hein, prends une place différente, laisse-la passer. Eh bien, laisse-la passer.
Hein. Il y a quelque chose qui m'émeut, moi, dans les hommes que j'ai pu rencontrer aussi, c'est cette belle sensibilité et cette façon de dire non à cette rivalité, soi-disant instinctive, entre les hommes, par rapport à une femme, par exemple. Et j'ai trouvé ça assez émouvant et très riche.
Oui, donc c'est en train de changer. Ça, on nous avait dit que c'était un instinct. On nous avait dit que c'était base. On nous avait dit que du ça profond viennent des trucs comme ça et qu'on ne saura jamais changer. Ça. Et apparemment, c'est des foutaises. C'est-à-dire que la partie qui ne permet pas, c'est toujours que je ne me permets pas. Mais le me, il a peut-être bien envie. Hein, donc, et on projette un côté de soi sur la femme. Hein, donc, et à ce moment-là, disons qu'on s'y oppose. On dit non, tu ne feras pas cette expérience-là, mais c'est nous-mêmes qu'on en a envie. Enfin, il y a tout un jeu de miroir, de reflet. Si on permet à l'autre, c'est comme si on permet à son âme de s'ouvrir. Hein, donc, je te permets, mais c'est tout à coup une permission que je me donne aussi. Voilà, et de ne pas être gouverné par ce que Freud a appelé le surmoi, quelque chose qui me pèse dessus et qui me dit voilà comment tu dois être. Ben, non, je renvoie le surmoi à ce qu'il est et je perds bien mon âme d'aller faire un tour.
Eh bien, Raymond, un grand merci.
Merci.
C'est donc ici que se termine cette émission. Pour en savoir plus sur les formations que Raymond propose dans son école d'accompagnement de la vie, rendez-vous sur mantica.com. Je vous rappelle les différentes diffusions sur Radio Campus, chaque deuxième mardi du mois à 11h et en rediffusion chaque quatrième jeudi à 16h, en fréquence modulée 92.1 MHz à Bruxelles. Les musiques qui illustrent ces entrevues sont Sieste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin, People Surfering du groupe Lul, The Jazz Woman du groupe Astraz, Acid Bass du groupe Chaos, Tango du groupe Jazz From Hell. Toutes ces musiques sont disponibles sur le site de musique libre jamendo.com. Toutes les infos relatives aux amours pluriels en Belgique ainsi que la possibilité de réécoute de l'émission, rendez-vous sur le site polyamour.be. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines, sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies. Thank you.